Bon, moi je connaissais pas ce chant, mais alors il va super bien. Il va super bien, quoi. C'est quoi? Ils l'ont remis à jour dans le GEM. Ouais, je sais pas, mais moi je suis toujours émerveillé. Voilà, on est là. On peut être dans n'importe quelle disposition de cœur, attristé, heureux. Le Seigneur est là, il est présent. Et vous savez, la présence de Dieu, elle est accompagnée de sa gloire. Et moi, ce chant-là, il me fait vibrer parce que moi aussi, j'ai envie de voir la gloire de Dieu. On a tous envie de voir la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, elle ne reste pas inactive. Elle manifeste aussi la puissance de Dieu. Je veux dire, vous voyez dans les textes de l'Ancien Testament, là où il y avait la gloire de Dieu, ça restait pas comme c'était avant. Ça bougeait. Et ça tombe bien parce que nous, on bouge aussi. Nous, on est en train de se mettre en marche. Alors, je ne dis pas qu'on se met en marche là pour le camp. Vous avez vu Rebecca, elle est déjà à fond avec les chants qu'elle nous a fait chanter. Déjà, elle est déjà dedans. On sent qu'elle s'impatientait quoi, d'y aller. Quoi. Donc, on y est. Elle s'impatiente déjà pour l'année prochaine. Alors, il faut s'imaginer. Alors, et ouais, moi, j'aime bien voir aussi les enfants qui chantent au club proclamer des paroles ainsi puissantes, proclamer la puissance de Dieu. Et la victoire sur leur vie, ils ne savent pas forcément tout, ils ne réalisent pas forcément tout ce qu'ils chantent. Mais n'empêche que Dieu entend ça. Dieu entend les paroles des enfants. Et ça a un écho tout particulier dans le ciel. Les anges entendent ce que chantent les enfants, ce qu'on chante là, dimanche après dimanche. Et on annonce la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire encore pendant cette semaine. Et c'est vrai que, voilà, quoi de mieux pour introduire finalement un club d'été où, ouais, là, on a envie de se mettre en marche. Et vous savez, quand on se met en marche, et c'est ce qu'on va voir un peu ce matin, des petits exemples où, enfin, il y en a plein, tout plein, quoi, mais voilà, il faudra faire le tri. Là où on se met en marche, ben, Dieu est présent au milieu de ces deux ou trois, et forcément, ben, Dieu, il marche avec nous. Et Dieu, il marche avec nous, et il nous accompagne. Et là où la présence de Dieu est, ben, forcément, ça va impacter là aussi où nous sommes. Et nous allons impacter ces enfants durant cette semaine. Nous allons impacter la région. On a prié dans ces champs pour que les nations, notre nation aussi, aient un impact, reçoivent cette lumière. Et c'est notre prière à tous. Et moi, je crois qu'on est dans un temps tout particulier où les enfants, il y en a peu qui ont entendu le message de l'Évangile. Parce que le catéchisme, qui y va encore? Dans les écoles, est-ce qu'on parle de qui est Christ, qui est Jésus? Et il y a une ténèbre, il y a une obscurité profonde dans le cœur de ces enfants. Et moi, je dis, c'est le temps où je reçois cette prière, cette parole, où, oui, le peuple est dans une grande ténèbre, mais aussi il va voir une grande lumière. C'est pas notre prière à tous. Et on veut que ces enfants qui sont dans les ténèbres, pris par plein de trucs, voient cette grande lumière qui va briller. Et nous allons participer à faire briller aussi cette lumière. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et si on peut vraiment se mettre en marche aussi volontairement, eh bien c'est parce que c'est la présence de Dieu aussi qui nous encourage. Et moi, je voudrais juste montrer mon petit schéma, là, un petit triptyque. Là. Comment ça se passait dans l'Ancien Testament et comment ça se passe dans le Nouveau. Et nous, on est dans le Nouveau. Hein. On est dans le Nouveau, on est dans cette nouvelle vie. Voilà, à l'époque, dans le Nouveau Testament, n'importe qui devait se mettre en marche s'il voulait avoir la présence de Dieu. Il fallait qu'il se mette en marche. Et puis forcément, Dieu venait les rencontrer. Mais il y avait ce pas de foi et Dieu venait les rencontrer. Et forcément, avec cette présence, forcément, la présence de Dieu entraîne la louange, entraîne l'adoration. Et ça, c'est le schéma qu'on voit dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est un peu pareil, mais c'est quand même une grande différence. C'est que la présence de Dieu, elle est là. Dieu est présent. La gloire de Dieu est là, au milieu de nous. Et ça, comme on l'a fait ce matin, ça ouvre notre cœur à la louange. Ça ouvre notre cœur à l'adoration. Ça ouvre notre cœur à proclamer qui est Christ. Qui est ce Dieu puissant. Et on veut le voir élevé, justement. On veut le voir élevé comme peut-être on ne peut pas imaginer le voir élevé, mais on veut le voir ainsi. Et forcément, une fois qu'on est dans cet état d'esprit, tout naturellement, on ne peut que se mettre en marche. Et ça, c'est le message de la grâce. C'est lui qui est venu manifester sa présence, hein, ce Emmanuel, Dieu avec nous. Et moi, je trouve que ça, c'est important. Et moi, ça nous encourage à aller de l'avant, à aller de l'avant. Et des exemples, vous en voulez ? Abraham, il s'est mis en route. Je ne veux voir que des exemples de l'Ancien Testament, parce qu'ils se sont mis en route et voir comment Dieu s'est manifesté. Abraham, il s'est mis en route, il est parti de Ur, et il est parti, et là, Dieu l'a rejoint. Et forcément, après, il y avait des sacrifices, il rendait grâce. Joseph, il est parti de bas, il était dans un trou, lui. Il aurait pu rester prostré, vivre l'échec de sa vie. Non, il s'est levé, et Dieu l'a accompagné. Et il est venu grand en Égypte, et il a sauvé même le peuple de son père et de ses frères. Moïse, eh ben lui aussi, il a mis en route le peuple pour sortir d'Égypte. Josué, il a suivi, pareil, ils se sont mis en route. Les juges, je ne vais pas passer, les juges, tous, se sont mis en route, se sont levés dans un temps qui était difficile. Naomi et Ruth, elles étaient paumées dans ce pays d'Édom, et puis ils ont dit « Non, il faut qu'on revienne. » Et ils reviennent dans le pays de Juda. Samuel, il était endormi. Difficile de se mettre en route quand on est endormi. Non, il a été réveillé et il s'est levé. David, lui, est sorti de sa zone de confort. Il a pu rester parmi ses troupeaux. Non, il s'est levé. Il est allé voir ses frères. Et il a vu ce géant Goliath. Et puis, il s'est encore levé. Et Dieu l'a accompagné et l'a béni. Élisée, alors lui était à bloc, il était avec ses 24 bœufs il avait. Et il a bourré, Élisée. Il aurait pu, il avait tout boulot lui, il était là déjà debout. Non, il a décidé de se lever aussi et de suivre et de partir pour faire ces œuvres miraculeuses qu'il a pu faire aussi lui. Et puis il y a différents rois. Et là il y en a un qui a un champion là. Il y a un champion, je vais partager avec les anciens, c'est Jéhu. Un champion, j'ai eu. Champion du gars qui se lève. Ça, je vous le recommande, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais de Roi Neuf, lisez ça. Lui, il s'est levé, mais il conduisait d'une manière insensée. C'est-à-dire qu'il conduisait, il était un peu fou, je ne sais pas. Il conduisait son char d'une manière insensée. Et il était à Jisraël, là. Il avait une mission, il devait aller régler ses comptes avec le roi d'Israël. Parce que il était dans la logique de Jézabel. Enfin bref, vous verrez ça. Et Dieu l'a utilisé justement pour détruire Jézabel et détruire tous les Baals qui étaient en Israël. Mais il était insensé. Il est insensé par rapport aux hommes. Il est dit qu'il conduisait de manière insensée. C'est-à-dire que la vallée de Jézreel fait peut-être 1 kilomètre, un peu plus de large. Et ils ont le temps d'envoyer 3 sentinelles. Le roi Joram envoie 2 sentinelles et puis lui, il y va aussi, mais jamais il arrivait. Quoi. On dirait qu'il faisait, et il était connu pour ça. Jéhu était connu pour avoir une conduite insensée. Et moi, j'ai envie d'avoir cette conduite insensée. Arrêtons de vouloir filer tout droit. Mais j'y reviendrai. Néhémie, il sort pas de sa zone de confort et quitte Suz pour aller à Jérusalem et reconstruire la muraille. Lui aussi, il a vu ce truc-là et aussi comment Dieu l'a accompagné. Et puis enfin, je ne vais pas aller plus loin, mais Jonas, lui, carrément contresens, Jonas. Il était en marche, mais à contresens. Et Dieu vient le chercher et le ramène dans le ventre du poisson. Ça, c'est une constante dans la Bible. Tous les héros de la foi se sont mis en mouvement. Tous les héros de la foi se sont mis en mouvement. Et moi, je vous propose donc ce matin aussi la lecture d'un texte où David se met en marche. Et il se met en marche à un temps particulier, c'est un temps où ça y est, il est roi à Jérusalem. Il est arrivé. Il est à Jérusalem, il est arrivé. Et Jérusalem, c'est la cité de David. Et il y est établi. Mais pourquoi se mettre en marche alors qu'il est déjà, établi? Le roi de Tyr même lui transmet des cadeaux. Les projets, il n'en fait plus trop. Ah oui, c'est vrai, il a le projet de construire le temple. Et il se souvient que finalement, l'arche n'est plus là. Il est dit qu'ils avaient oublié. Ils avaient oublié au temps de Saül l'arche. Moi, je me demande comment c'est possible. Comment c'est possible d'oublier l'arche de Dieu ? Quand vous voyez ce lieu, enfin, l'arche de Dieu, c'est là où la présence de Dieu est. Hein ? C'est-à-dire que Dieu résidait là, il siégeait entre les chérubins. Il siégeait. Dieu était là et on oublie Dieu. Ça m'interpelle, ça m'interpelle. Mais on verra un peu plus loin, on est homme aussi. Et donc je voulais lire c'est un peu long, cet épisode où justement, c'est dans 2 Samuel 6, tu peux afficher, ouais c'est bon. Je vais lire ce passage, donc dans la version Darby. Et David assembla encore tout l'élite d'Israël, 30 000 hommes. Et David se leva et se mit en marche. Voilà, j'ai souligné, se leva et se mit en marche. Et tout le peuple qui était avec lui vers Baalé de Juda pour en faire monter l'arche de Dieu, qui est appelée du nom de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Voilà, l'arche de Dieu, là où l'Éternel siège entre les chérubins. Et ils montèrent donc l'arche de Dieu sur un chariot neuf, et ils l'emmenèrent de la maison d'Abinadab, qui est sur la colline, et Uzza et Akio, les fils d'Abinadab, conduisaient le chariot neuf. Et ils emmenèrent avec l'arche de Dieu, de la maison d'Abinadab, qui était sur la colline, et Akio allait devant l'arche. Et David et toute la maison s'égayaient devant l'Éternel. Voilà, la présence de Dieu, hein, c'est un peu le triptyque là, la présence de Dieu met en joie, pousse à la louange devant l'Éternel. Et donc s'égayaient devant l'Éternel avec toutes sortes d'instruments, de joie, de cyprès, avec des harpes et des luttes et des tambourins et des sistres et des cymbales. Et là, ils arrivèrent à l'aire de Nacon, et Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les œufs avaient bronché. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Uzza, et Dieu le frappa là à cause de sa faute, et il mourut là près de l'arche de Dieu. Et David fut très irrité de ce que l'Éternel avait fait une brèche en la personne d'Uzza. Et il appela ce lieu-là du nom de Pérets-Uzza, qui est resté jusqu'à ce jour. Et David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Et David ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la ville de David. Mais David la fit détourner dans la maison d'Obed-Édom, le Guittien. Et l'arche de l'Éternel demeura 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, le Guittien. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Et alors on reporta au roi David en disant « Mais l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. » Et David alla et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom dans la ville de David avec joie. Hein. Voilà, on voit un David qui est au lieu finalement de profiter du repos, décide de se mettre à nouveau en marche avec Dieu. Et là, il y a une similitude bien sûr avec nous. L'arche de Dieu, c'est là où Dieu a son habitation, et cette similitude, elle est que là aussi, nous sommes par le Saint-Esprit aussi l'habitation de Dieu chacun, et aussi en Église, Jésus a promis ainsi sa promesse au milieu de ces 2 ou 3. Et puis, un petit détail, moi j'aime bien les petits détails de la parole de Dieu, dans l'arche, donc il y avait ces 2 chérubins, là quand on voit les... Ouais, j'ai oublié de mettre une image, mais les ailes de ces chérubins étaient comme ça, et la présence de Dieu était au milieu. Et vous savez, Ézéchiel dit, dans le chapitre 1 d'Ézéchiel, il dit que les chérubins, ils avaient l'aspect des hommes. C'est-à-dire que c'était des anges qui avaient un aspect proche de celui des hommes. Et la particularité des chérubins, c'est qu'ils existent, ils sont là pour magnifier la sainteté et la puissance de Dieu. Et ça, c'est leur principale responsabilité. Ils sont là pour, dans l'ensemble de la Bible, pour chanter les louanges de Dieu. Et il rappelle également la majesté, la gloire et la présence perpétuelle auprès de son Dieu. Mais finalement, vous ne trouvez pas qu'on ressemble à des chérubins ? Et moi, je suis persuadé que spirituellement, on a l'aspect des chérubins. Tony nous a lu le premier chapitre il y a 2 semaines d'Éphésiens, et par 3 fois, c'est dit qu'on est là pour servir à célébrer la gloire de Dieu. Comme les chérubins qui servaient à célébrer la gloire de Dieu, on est là pour célébrer la gloire de Dieu. Ça, c'est la grâce que le Seigneur nous fait. D'avoir cette capacité, de grâce à cette présence à la fois, maintenant de pouvoir célébrer et adorer notre Dieu. Et donc, le fait de se mettre en route déclenche toute une dynamique spirituelle. Quand on met aussi, avec nous, on met Dieu en route aussi. Et ça, c'est l'image du turbo, je la redonne, mais voilà, quand on commence à démarrer un moteur, et il est poussif, mais s'il y a un turbo, bah, plus on monte dans les régimes, plus on amène de l'air, on amène du souffle, et plus la puissance du turbo vient se manifester. Et moi, je suis persuadé qu'avec Christ, c'est pareil, mettons-nous en route, et le souffle du Saint-Esprit vient de nous accompagner, la présence de Dieu va nous donner un nouveau souffle, et c'est pour ça qu'on peut se reposer, on peut souffler et ne pas forcément se fatiguer. Et donc tout le peuple, là, forcément faisait la fête, il était dans cette atmosphère de louange, conscient tout à nouveau de cette présence et gloire-là qui était là toute proche. Et dans la marche, c'est sûr qu'il y a un risque. Dans la marche, quand on se met en route, il y a le risque de tomber. Et ça, les enfants, ils le savent très bien. Ils y sont tellement habitués, plus ils sont petits, dans l'apprentissage, on marche, on tombe. Mais nous, plus on grandit, et des fois on a du mal. On a du mal à s'en souvenir de ça. Et c'est pas bien les échecs. Les échecs, surtout si on est enfant de Dieu, mais non, je ne dois pas tomber. Et là pourtant, tout de bonne volonté, il y a un problème. Alors oui, il y a un problème, ce malheureux Usa, il a voulu bien faire. L'arche risquait de tomber. Ouais, et qu'est-ce qu'on fait comme tout homme sage? Ben, on évite la chute. Et là, on commence un peu à voir. On commence à voir un peu certaines choses. Et oui, Usa, il n'était pas qualifié pour ça. C'était pas un lévite. Oui, on peut trouver plein de raisons. Et puis même, peut-être qu'Usa, il a bien fait finalement, parce que lui, il n'y a que lui qui est mort. Peut-être si l'arche était réellement tombée, il y en avait d'autres qui seraient là, et puis peut-être David même aurait touché, et puis il serait mort, j'en sais rien, qui sait. Enfin, Mais moi, ça m'interpelle. Et comme David, il a été irrité par ce truc-là. Et moi, ça m'interpelle, cet épisode. Ça m'interpelle, parce qu'en tant que tout homme humain, on a du mal à accepter la chute. Mais pourtant, on est humain. Et par définition, l'homme est faillible. On connaît bien ce proverbe, l'erreur est humaine. Et moi, je crois que c'est grâce à ça que le Seigneur nous aime. C'est grâce à nos faiblesses, à nos chutes que le Seigneur nous aime. Et c'est pour ça qu'il est venu à notre rencontre, parce qu'il veut nous faire grâce. Alors oui, on a peut-être l'aspect de chérubin, mais on est toujours humain. Et si nous tombons, eh bien, notre Seigneur, il veut surtout nous relever. Il ne faut pas s'imaginer, et je sais qu'on le sait très bien, que le chemin du chrétien, c'est une autoroute qui est bien balisée. Moi, vraiment, je vois le chemin du chrétien, des enfants de Dieu, comme un chemin de crête, avec ses pentes et ses côtes. Et ça, on a souvent du mal à l'accepter, parce qu'il y a un risque de chute. Et on vit ça comme un échec, parce qu'on a été éduqué comme ça. Et dans la société, tout est fait pour que Pentecôte n'existe pas. Tout est fait pour aplanir les reliefs. Il faut rationaliser, il faut linéariser le plus possible, il ne faut pas de folie. C'est pour ça que j'aime bien, j'ai eu moi. Lui, je ne sais pas où il avait été éduqué, mais c'était quelque chose. Mais moi, je pense, on a chanté dans les chants, là, d'être repris dans notre intelligence, de repenser un peu différemment les choses. Mais le problème, c'est qu'on a une... Il y a des matheux ici, je suis sûr. Vous connaissez la distance la plus courte entre deux points, Clément. L'axiome. La distance entre la plus courte entre deux points, c'est la droite. Hein ? On est tous d'accord avec ça, bien sûr. Mais ça, il faut savoir que c'est réel, c'est vrai, que dans l'espace d'Euclide. Et en mathématiques, il y a d'autres espaces où la distance la plus courte, ça peut être une sinusoïde, ça peut être un arc de cercle. Mais non, on a été éduqué dans ce truc-là, où la distance la plus courte entre deux points, c'est une droite. Et ça, on l'a reçu intellectuellement, on l'a reçu culturellement. Et ça, donc, on l'a reçu tellement qu'on le met à toutes les sauces dans notre culture. Et pourtant, quand vous voyez les chemins de ces hommes de Dieu, ben, vous ne voyez pas beaucoup de droite. Je ne sais pas si elle existe dans le plan de Dieu, la droite. Mais nous, avec notre schéma humain, ben, on continue à s'entêter et puis à essayer de rentrer Dieu et le plan de Dieu, toujours dans un truc carré et bien droit. Mais pour Dieu, le message, et ça c'est le message de l'Évangile, c'est tomber et se relever. Et ça c'est la vie chrétienne, c'est tomber et se relever. C'est le message de la croix. C'est tomber, oui on tombe. Mais on n'est pas fait là pour rester en bas, parce que Christ, lui, il a déjà payé. Et on est là pour se repentir, pour toucher le fond, mais pour remonter. Et on ne peut pas se remonter nous-mêmes même. Et c'est vrai que je me suis amusé, vous allez voir deux, trois photos, quatre photos, je ne sais plus combien de photos j'ai fait. C'est dans la création qu'on peut voir vraiment ça. Moi je me suis amusé un peu à faire cette comparaison entre la création de Dieu et puis ce que les hommes sont capables de faire. Voilà, l'eau de pluie, le chemin de l'eau. Vous voyez un peu ça, le chemin de l'eau? C'est une droite. L'eau, elle s'évapore, derrière il y a un changement d'état. Elle se condense, un nouveau changement d'état, elle tombe, enfin elle descend, et puis voilà. Mais pour les hommes, l'eau, ben, c'est bon, je caricature, mais oui, on met ça dans des canaux, il faut que ça aille tout droit, on met ça dans des tuyaux, il ne faut pas que ça déborde, il ne faut pas que ça fuit. Hein. Mais voilà, moi je trouve ça magnifique. La suite. Voilà comment Dieu, les chemins ou les routes, Dieu comment il fait les routes. Vous avez déjà vu des rivières tout droites, à part les canaux. Et les hommes ont fait des routes, nous, il faut que ce soit tiré au cordeau. Parce qu'on ne connaît que ça, nous. Hein. La distance la plus courte entre deux points, c'est la droite. Après le relief, voilà, Dieu, la création de Dieu, des petites montagnes, des vallées, c'est magnifique. Ah ben nous, on y fait des trous, on y fait des ponts. Hein, il faut que ça soit tout droit, ben, c'est sûr. C'est rationnel, c'est... Regardez ça, c'est magnifique. Les oiseaux migrateurs, les volets. J'ai vu ça pour vrai, de vrai, là. C'était le dimanche matin du mariage d'Anne-Lise, à Montélimar, là. Je voyais un vol de gros oiseaux, là, de grues. Et puis, je comprenais pas, ils étaient là, ils tournaient autour, mais vraiment, peut-être à 10 mètres au-dessus de nos têtes, on dirait, mais ils étaient paumés. Et ils étaient là, tout en bas. Tout d'un coup, je les ai vus remonter. Il y avait contre le Mistral, ils remontaient, donc ils se faisaient emporter vers le sud. Puis après, je ne les voyais plus. Ils sont montés à une vitesse. Et puis après, ils ont piqué, ils sont redescendus, et voilà, ils avançaient comme ça. Et nous, ben, les hommes, il faut que ça file droit. Hein, et attention. Et là, le dernier, que je garde pour la c'est quand même magnifique, la vie, la mort. Voilà comment on vit. On a des hauts, des bas. Notre cœur lui-même, il bat. Et si c'est plat, hein, je vous dis pas le dégât. Voilà, moi je trouve que c'est puissant. C'est puissant. Et n'essayons pas de vouloir encore rentrer toujours Dieu. Et moi je trouve que c'est magnifique. De voir comment le Saint-Esprit veut nous renouveler notre intelligence. Moi, j'avais l'impression que j'étais arrivé au bout de la compréhension de la parole de Dieu. Qu'on pouvait, bien sûr, je n'avais pas tout compris, mais quand globalement, le message, j'avais tout maîtrisé, quoi. J'avais un peu... Et je vois que plus on avance, il y a des nouveaux reliefs, il y a des nouvelles perspectives. Et c'est ça, être en marche. C'est qu'en marche nous permet de voir de nouvelles choses, des choses qu'on n'est peut-être pas l'habitude ou notre aspect des choses, ainsi de suite. Et c'est pour ça que c'est bien de se rester en marche et de continuer à se mettre ainsi à l'épreuve. Voilà, j'ai fait un petit aparté par rapport à l'histoire de David. Mais malgré son échec, en se mettant en marche, David a mis Dieu aussi en marche avec lui. Et on aurait pu dire que ça y est, il y avait cet échec, c'était fini. Découragé, irrité, il aurait pu rester là. Mais non, mais le fait simplement d'avoir mis cette arche en marche, et même de l'avoir laissé là arrêter chez Obed-Edom, eh bien, Obed-Edom a été béni. Et ça, ils n'avaient même pas aussi imaginé ça. Ils n'avaient pas imaginé ça non plus. Et là, forcément, on vient dire ça à David, et David, il dit, maintenant, on va ramener cette arche, on va ramener cette présence de Dieu là à Jérusalem, et à nouveau, cette présence de Dieu, elle apporte cette joie. Et j'ai pas tout lu, mais lisez la suite. Il faisait six pas, il faisait un sacrifice. Forcément, la présence de Dieu nous met dans cet état de cœur, de reconnaissance, de joie, et surtout de louange et d'adoration pour notre Dieu. Voilà, donc marcher aussi, ça permet de contourner les obstacles aussi. C'est-à-dire que ouais, vous marchez, vous avez peut-être un mur ou j'en sais rien, donc où le mur s'écroule, ou on le contourne. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de rester en marche. Parce qu'on ne va pas rester bloqué. On ne va pas rester bloqué devant les obstacles. Ça permet de les contourner. Et ça permet donc, comme je le disais, de discerner toujours mieux les détails du contour de nos vies et comprendre tout l'amour de Christ. Vous savez, Paul aux Éphésiens, il parle d'être enraciné, hein, fondé. C'est étonnant ça, parce que ça veut dire qu'on ne marche pas si on est enraciné et fondé. Enraciné et fondé dans l'amour. Oui, parce que l'amour, il n'est pas statique. L'amour, il se déplace. L'amour, il va n'importe où. Et il dit, mais parce que ça, il faut le comprendre. Tu disais, Pierre qui parlait de Paul, qui disait des choses difficiles à comprendre. Mais ça, c'est aussi pas évident à comprendre. Pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. C'est un truc qui nous dépasse. Donc comment comprendre cela? Mais oui, mais en étant fondé et enraciné dans l'amour. Mais pas statique, mais en mouvement dans cet amour. Et on est habitué peut-être, nous, à voir en 2D, quoi. On est linéaire, hein, on est linéaire, c'est comme on l'a vu, on voit en 2D. Mais non, là on parle de profondeur de l'amour, on parle de la hauteur. C'est-à-dire pareil, il y a des creux et il y a des sommets. Voilà, enfin, je voudrais quand même terminer. On croit peut-être qu'être en marche, c'est fatigant. Ça fatigue d'être en marche, surtout s'il faut monter. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas nous qui montons. Nous, on n'a qu'à tomber. Et on est relevé. Et ça aussi, c'est un truc pas facile à comprendre. Et juste ce verset, Ésaïe 40, tu peux l'afficher? On le connaît tous bien, c'est le verset, je crois, phare, ça, qu'on utilise quand on veut encourager des gens qui sont dans la difficulté, fatigués. Et moi, je crois que c'est un verset qui est puissant. Là, Ésaïe, il est... Ouais, donc, 28, hein, c'est ça. Oui, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Et il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Et il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ouais, moi, je pense à ces oiseaux-là qui ont l'habitude, eux. Ils vivent pas... Enfin, ils ont un autre espace. Hein, ils n'ont pas l'espace euclidien. Et ils volent... même un moineau, il ne vole pas tout droit. Moi, je pense qu'il faut s'inspirer de ces aigles. Il faut s'inspirer de ces oiseaux-là. C'est des êtres célestes. Mais je vous rappelle, on est toujours un peu des chérubins aussi, hein, donc on a aussi des ailes. On a l'aspect, on pourrait avoir l'aspect. Et moi, l'air, ça me parle. L'air, c'est le souffle, hein, et c'est le Saint-Esprit. C'est le souffle du Saint-Esprit. Et on a finalement à nous éduquer à sentir cette présence de Dieu en nous et à s'appuyer sur ce Saint-Esprit pour remonter, pour ne pas se fatiguer. C'est le témoignage vraiment qu'on a rendu aussi avec les anciens par rapport à... On aurait pu se fatiguer par rapport à la recherche du pasteur, mais on est en paix, on est en repos avec ça parce qu'on a laissé faire les choses, on a laissé se porter. Et moi, c'est quelque chose qui m'encourage. Et je me dis, mais je suis tellement passé à côté de choses dans ma vie où je me suis battu. Et c'est marrant parce que cette semaine, j'ai eu, même jour, on a eu 2-3 coups durs là, deux nouvelles... Et je me dis, mais non, mais chouette. Et chouette, j'étais pas encore bien au point par rapport au message, mais je dis, mais c'est top, ça arrive à top, je suis au fond, là. Mais... Et le même jour, et j'étais, c'est vrai, abattu, mais je me suis dit, mais Seigneur, il y a un truc mieux, et je veux me porter là-dessus. Et ça m'a fait penser, et je voudrais raconter encore un dernier témoignage. Vous savez, j'ai déjà souvent raconté cette histoire quand je me suis noyé en Afrique. J'étais en train de me noyer en Afrique. Et puis, parce que j'étais pris entre des baïnes et j'arrivais pas à revenir. Et je nageais. Et j'étais pris dans les rouleaux. J'arrivais pas. Et puis, en bon évangélique, je me suis dit, non, il faut que tu descendes. Tu vas aller au trou parce que c'est ça, tu vas au fond. Tu vas toucher le fond, et après, quand tu es dans le toucher le fond, tu essayes de rentrer. Et puis, tu vas t'avancer, parce que peut-être il y a un endroit où tu n'auras plus pied. Et puis, vous savez quoi? J'ai pas touché le fond. J'ai fait ça 3 fois. J'ai pas touché le fond. Et ça m'a éclairé, ce truc-là. Parce que nous aussi, des fois, on veut toucher le fond. Et moi, souvent, j'ai dit, mais même quand je vois des personnes qui sont dans le dur, mais je dis, mais non, mais il faut qu'ils touchent le fond. Ils n'ont pas encore touché le fond. Et moi, je veux peut-être les aider à toucher le fond. Mais c'est tout faux, ça. C'est tout faux. Je viens de découvrir que c'est tout faux. Je pense que toucher le fond, c'est quand justement on n'arrive pas à toucher le fond. Quand on n'a plus rien. Et là, j'avais plus rien, moi. J'avais plus rien en train de me noyer. Et puis c'est là que j'ai crié finalement à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, je ne suis pas venu en Afrique pour mourir. Et j'ai dit ça. Je ne suis pas venu en Afrique pour y mourir. Je ne suis pas. Il n'y avait personne sur la plage, personne ne me voyait. Et je me suis accroché à ça, je ne suis pas venu. Et puis tout d'un coup, il y a un pêcheur. Mais oui, un berger. Un pêcheur ghanéen qui m'a balancé une bouée, qui m'a vu je ne sais pas comment. Et je suis sorti, j'en pouvais plus, j'arrivais plus à marcher. J'étais à 2 doigts, quoi, d'y passer. Enfin voilà, c'est quelque chose de voilà, je pense qu'on a tous ces difficultés, on a tous ces moments où... mais moi, je pense que le message Dieu, il ne nous lâche pas. Il ne nous lâche pas. C'est vrai que ça ne sert à rien de vouloir toucher le fond, parce qu'on croit que peut-être on va pouvoir redonner un impact. Non, attendons-nous vraiment au Seigneur. Attendons-nous au Seigneur. Voilà, et puis cette semaine, on est en marche. Peut-être que, ouais, on aura des difficultés. Il y aura peut-être encore des brèches qui vont se faire, des difficultés entre nous ou avec les enfants, j'en sais rien. Parce que oui, on dérange l'ennemi aussi, là, hein, il faut savoir. Mais ça, c'est pas grave. On est là, vigilant, on est en marche. Et ne nous irritons pas, attendons simplement à être portés et à continuer à voir comment malgré ces écueils, malgré peut-être les difficultés, la bénédiction de Dieu va se répandre sur ses enfants. On est là pour ça. C'est notre mission, c'est notre ministère, c'est notre engagement. Et moi, je trouve que c'est une grâce vraiment que le Seigneur nous fait de nous oser nous employer. Oui, notre Dieu, nous te rendons grâce vraiment pour ton plan, pour tes chemins qui ne sont pas toujours ce que nous, on pense ou on imagine, Seigneur. Mais pour toi, c'est des chemins qui sont les plus courts pour nous parler, les plus courts pour nous ramener vers toi, Seigneur. Oui, merci, parce que tous ces enfants ont un parcours, tous ces enfants que tu nous as donnés ont reçu une éducation, ont reçu quelque chose, Seigneur. Mais tu veux, au-delà de ça, tu veux les toucher. C'est vrai qu'eux, ils sont familiarisés avec les chutes et le fait de se relever, Seigneur. Et ce message de l'Évangile, de la croix, Seigneur, ils sont tout prêts à l'entendre, à le comprendre. Et Seigneur, nous voulons te prier que nous, avec nos mots, des fois trop compliqués, Seigneur, nous avons besoin de ton secours pour leur parler simplement et avec puissance de ce que tu as fait pour eux et comment tu veux les ramener à toi, Seigneur. Nous nous remettons aussi à toi pour cette semaine, dans nous, dans l'équipe, Seigneur, parce que oui, nous formons une chouette équipe, parce que c'est toi qui nous as réunis. Et surtout, Seigneur, on forme une bonne équipe parce que tu es présent là avec nous. Et nous voulons te louer encore, te rendre grâce pour cette présence. En ton nom, amen.
Bonjour. Alors, vous l'avez compris, la semaine du club d'été, c'est celle-là. Et ça va commencer tout de suite, parce que tout de suite après le culte, on va démonter la sono. Alors, comme on est nombreux, ça ira vite. Merci. Voilà, si quelques-uns peuvent donner un coup de main, c'est vraiment sympa. Ça permet de gagner du temps. Et puis, la sono, on va la remonter cet après-midi à 15h30. Donc, si on aurait besoin aussi d'un coup de main. Je ne sais pas si deux personnes pourraient s'engager à venir nous aider à la remonter. Ça permet de ne pas s'essouffler trop vite avant que la semaine ne commence. Est-ce que deux personnes pourraient juste lever la main pour quelqu'un qui est disponible, voilà. Comme ça, on sait sur qui on peut compter. Sinon, tant pis, on le fera sans, mais c'est dommage. J'aurais aussi besoin, à la fin de la semaine, de monde pour ramener la sono ici. On invite une collègue du boulot, et pour le coup, après, on va aller manger ensemble et tout, donc moi, je ne serai pas disponible. Donc, si là aussi, si deux, trois personnes veulent bien me dire pour être présentes, pour faire ce travail pratique, donc venez me le dire. Rebecca l'a déjà dit, mercredi, 17h30, réunion de prière, donc sur place, à la salle Gaston-Laverrière. C'est important de prier chacun chez soi, mais c'est important aussi de prier aussi tous ensemble, de partager les sujets, de les porter ensemble à notre Dieu. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Mercredi à 17h30 à la salle Gaston-Laverrière. Dimanche prochain, donc le culte sera aussi à la salle du club. Donc il n'y aura pas de culte ici. Par contre, on vous propose de se retrouver pour ceux qui veulent un petit peu plus tôt pour un thé-café, un moment convivial. Donc voilà, n'hésitez pas à partir de 9h30. Ouais, merci Nancy. Donc c'est vraiment important cet apéritif parce que c'est l'occasion aussi de partager avec les personnes qui sont là. Par contre, c'est vrai que c'est quand même plus sympa si on peut partager des choses à grignoter puis à boire. Donc voilà, que chacun se sente concerné. Et surtout, informe Nancy, comme ça, elle sait comment compléter. La semaine d'après, il y aura les Late Clubbers, le jeudi 19, à Saint-Genis, de 17h à 20h. J'ai mis un panneau au fond, si vous voulez plus d'infos, vous regardez, il y a un petit flyer que j'ai imprimé. On a besoin d'inscriptions aussi pour deux choses. Tout d'abord, pour les écoles du dimanche, c'est l'été, donc il y a plus d'école du dimanche avec les groupes séparés, tout ça. Mais c'est l'occasion aussi pour chacun et chacune de partager ce ministère, ce travail, cet engagement. Donc il y a une petite salle, une petite feuille au fond de la salle pour pouvoir s'inscrire. Le mois de juillet est complet, puis dans le mois de juillet, il y a quelques trous, donc c'est facile. Au mois d'août, il y a encore de la place. Alors moi, je vous invite à vous lancer à l'eau. C'est l'occasion peut-être pour essayer, c'est l'occasion aussi de prendre du temps pour les enfants, ce sera certainement de chouettes moments. Et puis il y a une nouvelle liste pour le thé café, donc voilà, si vous voulez vous inscrire, ce sont aussi des moments conviviaux importants aussi pour le fonctionnement de l'église. Et puis donc le dimanche dans deux semaines, donc dans une semaine il n'y a pas de culte ici, on est à la salle Gaston-Laverrière, et puis dans deux semaines on aura donc la journée à la Lècherolle, où il n'y aura pas non plus de culte ici. Donc, vous pouvez venir, rendez-vous en principe entre 10h et 10h30 sur le parking de la Vatée, hein, comme d'habitude. Et puis, avec votre pique-nique et plein de bonne humeur. Je vous rappelle aussi le week-end d'église des 8 et 9 septembre. Voilà, à noter dans vos agendas. Dernier appel aussi pour le CEP Télécom, de façon à pouvoir partager nos données, pour pouvoir faciliter aussi les contacts entre les uns et les autres. Là aussi, vous pouvez contacter Nancy pour communiquer des infos, s'il y a encore des infos à partager. On veut penser à ceux qui souffrent, et ce matin, Raymond a eu une douleur sous les côtes, derrière les côtes. Pour le coup, il a consulté, donc ils sont partis aux urgences. Ils sont rentrés pendant le début du culte, là, a priori rien de bien grave, mais avec quand même des médicaments à prendre. Donc voilà, pensons aussi à la santé des uns les autres, prions aussi pour les uns pour les autres. Je vous invite à vous lever. Je partage avec vous deux versets qui sont dans Job au chapitre 42, et qui sont bien, je trouve, avant cette semaine. « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne s'oppose à tes projets. » Et Job, il dit encore « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Qu'on puisse vraiment voir Dieu et que ce temps d'été soit l'occasion aussi pour chacun, chacune de mieux connaître son Dieu et surtout de le voir à l'œuvre. Dans nos vies, dans les vies des autres aussi. Amen. Bonne semaine et bon dimanche.